Chapitre 18. Nora bâilla et s'étira, certaine que le jour était déjà levé. Pas encore véritablement réveillée, elle n'avait qu'un désir, se rendormir au plus vite. Sous son ventre, la paille épousait à la perfection les courbes de son corps. Toujours la même histoire. Dès qu'on se sentait bien sur ses fichus paillasses, c'était l'heure de se lever. Mais Julia ne tarderait pas à lui flanquer une claque sur la croupe. Son mari ouvrait toujours l'œil dès les premières lueurs de l'aube. Il y avait tant de travail à abattre. Si elle ne bougeait pas, il lui ficherait peut-être la paix un petit moment de plus. Le matin, Nora détestait son époux. La claque rituelle, l'ordre de se lever et de se mettre au plus vite au labeur. En plus, il sifflait dès qu'il était debout, alors qu'elle avait encore la tête lourde de sommeil. Nora se tourna sur le dos et fit l'effort surhumain d'entrouvrir les paupières. Julia n'était pas étendue à côté d'elle? Un frisson glacé courut le long de son échine, la réveillant instantanément. Elle s'assit en sursaut, morte d'angoisse sans savoir pourquoi. Après tout, l'absence de Julia pouvait avoir une multitude d'explications anodines. Était-ce le matin, l'approche de l'aube, ou était-on encore en pleine nuit? Il fallait à tout prix qu'elle s'éclaircisse les idées. Elle se pencha en avant et examina les braises dans la cheminée. Elle rougeoyait toujours avec autant de vigueur que la veille au soir. Et ce n'était pas normal. À leur chiche lueur, Nora vit que Bruce, son fils, la regardait assis sur sa paillasse.
« Maman, que se passe-t-il ? »
demanda Bethany, la sœur aînée du jeune garçon.
« Pourquoi êtes-vous réveillés tous les deux ?»«
Maman !»
souffla Bruce.
« On vient à peine de se mettre au lit. »
Voilà qui expliquait la vigueur des braises dans la cheminée. Épuisée d'avoir passé la journée à retirer des cailloux et des pierres du champ pour le préparer au sommeil, Nora s'était endormie comme une masse dès qu'elle avait posé la tête sur la paille. Revenue à la maison bien après le coucher du soleil, soit trop tard pour s'attaquer à d'autres corvées, la petite famille avait mangé en vitesse avant de filer au lit. Nora sentait encore sur sa langue le goût de la viande d'écureuil, de la tourte, et les radis lui remontaient toujours. Bruce ne se trompait pas. Il venait juste de se coucher.
« Où est votre père ?»
demanda Nora, de plus en plus angoissée.
« Il est allé se soulager, je crois, » répondit Bethany. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»«
Tu es malade ?»
s'inquiéta Bruce.
« Silence tous les deux, ce n'est rien, recouchez-vous maintenant. »
Les deux enfants continuèrent à regarder leur mère, les yeux écarquillés. Nora était folle d'angoisse, sans savoir pourquoi, et les gamins le voyaient sur son visage. Ce n'était pas bon pour eux, mais elle ne parvenait pas à se ressaisir. Incapable d'identifier le problème, elle le sentait pourtant jusque dans la moelle de ses os. Le mal. Le mal planait dans l'air comme la fumée d'un feu de bois. Il lui montait aux narines, l'empêchant de respirer librement. Quelque part dans la nuit, le mal rôdait. Nora jeta un nouveau coup d'œil à la place vide à côté d'elle. Julian était aux toilettes, et il devait y être. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Pourtant, se souvint-elle, il y était allé juste après le repas, comme d'habitude. Bien entendu, cela n'excluait pas qu'il ait eu besoin d'y retourner, mais il n'avait pas mentionné avoir un problème de ce côté-là avant de se coucher. L'angoisse déchirait les entrailles de Nora, comme si elle était confrontée au gardien en personne.
« Créateur bien-aimé, protège-nous » implora-t-elle. « Veille sur cette maison et sur ses humbles habitants, et éloigne le mal qui rôde autour d'eux. Je vous en supplie, esprit du bien, prenez soin de nous. »
Nora avait fermé les yeux pour prier. Quand elle les rouvrit, ce fut pour constater que ses enfants la dévisageaient toujours. Bethany devait sentir aussi qu'il se passait quelque chose, car elle était très éveillée. Le genre de gamine qui posait sans cesse des questions, souvent très pertinentes. Pour plaisanter, Nora l'avait surnommée « Damoiselle pourquoi ?» Bruce, lui, tremblait de tous ses membres. Nora écarta vivement sa couverture de laine. Son geste effraya les volailles qui s'étaient agglutinées dans un coin de l'unique pièce de la fermette. Elles battirent des ailes et caquetèrent comme si elles venaient de voir entrer un renard.
« Rendormez-vous, les enfants !»
Bruce et Bethany se rallongèrent, mais ils regardèrent leur mère passer une robe sur sa chemise de nuit. Frissonnant, sans savoir pourquoi, Nora s'accroupit devant la cheminée et y posa quelques bûches de bouleau. Même s'il ne faisait pas froid, les braises auraient amplement suffi pour la nuit, elle avait besoin de voir crépiter un bon feu dont la lumière, espérait-elle, chasserait ses inquiétudes. Près de l'âtre, elle repéra leur unique lampe à huile. Elle l'alluma avec un petit morceau d'écorce de bouleau et remit en place le verre. Dans son dos, les petits ne la quittaient toujours pas des yeux. Nora approcha de leur paillasse. Se penchant, elle embrassa Bruce sur la joue, puis elle lissa les cheveux de Bethany et lui posa un baiser sur le front. Sur la peau de l'enfant, elle reconnut le goût de la poussière où elle s'était traînée toute la journée pour aider ses parents à déblayer le champ. Elle n'avait pu porter que les petites pierres, mais c'était mieux que rien.
« Rendormez-vous, mes chéris. Papa est allé aux toilettes. Je lui apporte la lampe pour qu'il y voit bien sur le chemin du retour. Vous savez qu'il crie très fort quand il se cogne les doigts de pied dans l'obscurité. Allez, rendormez-vous. Tout va bien. Je vais chercher papa et je reviens. »
Quand elle eut atteint la porte, Nora récupéra ses bottes posées à côté et les enfila. Elles étaient glacées, encore humides et gluantes de boue, mais elle protégerait les pieds de la paysanne qui ne tenait pas à s'échiner dans le champ en boitillant par-dessus le marché. Puis elle prit un châle, le drapa sur ses épaules et le noua lentement. Nora retardait autant que possible le moment où elle ouvrirait la porte. À l'idée de sortir dans la nuit, elle avait des larmes aux yeux et son cœur battait la chamade. Le mal l'attendait dehors. Elle le savait, le sentait jusqu'au plus profond de son être.
« Sois maudit, Julian, marmonna-t-elle, m'obliger à sortir en pleine nuit. Oui, sois maudit. »
Si elle trouvait son mari dans les toilettes, allait-il la maudire à son tour? Parfois, il tempêtait contre ses foutues réactions de bonne femme. Selon lui, elle s'inquiétait pour un oui ou pour un non. Comme ça ne servait à rien, pourquoi continuait-elle? Sûrement pas pour le plaisir de se faire crier dessus, en tout cas. Mais les hommes ne comprenaient jamais ce genre de choses. Alors qu'elle soulevait le loquet, elle mesura à quel point elle avait envie que Julian soit pour de bon aux toilettes. S'il en était ainsi, il pourrait lui reprocher ses angoisses de bonne femme autant qu'il voudrait. Puis, il lui passerait un bras autour des épaules, lui murmurerait de ne plus pleurer et ils rentreraient ensemble se coucher. Quand elle ouvrit la porte, Nora dut donner de la voix pour calmer les volailles plus affolées que jamais. Le ciel sans lune, lourd de nuages, était aussi noir que l'ombre du gardien. Nora descendit très vite le sentier en terre battue qui conduisait à la cabane des commodités. D'une main tremblante, elle gratta à la porte.
« Julian ? Julian, tu es là ? Réponds-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne me taquine pas ce soir. »
Pas de réponse. Alentour, aucun insecte ne bourdonnait et les grenouilles elles-mêmes se taisaient. Pas un oiseau ne chantait, et les criquets non plus. Un silence de mort régnait partout, comme si le monde au-delà du cercle lumineux de la lampe à huile avait cessé d'exister. Si elle posait sa chiche source de lumière et avançait dans les ténèbres, Nora risquait d'y tomber comme dans un puits. Arrivée au fond, elle ne serait plus qu'une très vieille femme, bientôt condamnée à une nouvelle chute dans un gouffre d'une toute autre nature, celui qui s'ouvrait sous les pieds de chaque être vivant au terme de son existence.
Si idiote que fût cette idée, autour d'elle il n'y avait qu'un jardinier, Nora en tremblait de terreur.
Elle tira la porte des toilettes qui s'ouvrit en grinçant. Une peine qu'elle aurait pu s'épargner parce qu'elle savait que Julian n'était pas derrière. Avant même de sortir du lit, elle avait la certitude de ne pas le trouver là, même si elle ignorait pourquoi c'était ainsi. Et bien entendu, elle ne s'était pas trompée. Parfois, ses intuitions, même si elles semblaient absurdes, se confirmaient. Julian se moquait souvent d'elle à ce sujet. Croyait-elle avoir un don de voyance, comme la vieille folle qui vivait dans les collines et en descendait de temps en temps quand elle avait une révélation qu'elle jugeait urgent de répéter à tout le monde? Pourtant, à certains moments, Nora avait vraiment des prémonitions, comme celle qui lui hurlait depuis son réveil que Julian n'était pas aux toilettes. Pis encore, elle savait où le trouver. Comment le savait-elle? Elle n'aurait pas pu le dire et encore moins l'expliquer. Mais c'était ainsi, et cette certitude la faisait trembler de tous ses membres. Venir vérifier ici n'avait été qu'un moyen de retarder le terrible moment où elle découvrirait son mari à l'endroit qu'elle aurait donné cher pour éviter. À présent, elle devait y aller. Nora leva sa lampe, plissa les yeux et ne vit rien à plus de 5 pas devant elle. Se retournant, elle aperçut la silhouette sombre de la ferme et un petit carré très lumineux, la fenêtre éclairée par les flammes de la cheminée. Le bouleau avait pris et une belle flambée devait crépiter dans l'âtre. Entre la ferme et elle, dans l'obscurité, Une entité maléfique semblait sourire de la terreur de la jeune femme. Nora pivota de nouveau, resserra les pans de son châle et leva plus haut sa lampe.
Avoir laissé les enfants seuls l'inquiétait. Ce n'était pas bon quand elle avait ses intuitions, mais quelque chose la poussait à s'aventurer plus loin sur le sentier.
« Esprit du bien, je vous en supplie, permettez-moi de rester une bonne femme avec des idées idiotes. Faites que Julian soit indemne. Nous avons tous besoin de lui, oui, tellement besoin. »
En descendant la colline, Nora ne put retenir ses sanglots. Elle savait ce qu'elle allait découvrir. Alors pourquoi continuait-elle à avancer? Pour quelle raison ne rebroussait-elle pas chemin vers son foyer, loin de l'horreur? Elle entendit bientôt les clapotis de l'eau et en fut un peu soulagée, car la nuit lui parut ainsi un peu moins vide et menaçante. Dans ces ténèbres qu'elle devinait étrangères et glaciales, un petit son familier la reliait à sa vie quotidienne, pénible mais finalement heureuse.
Comment avait-elle pu penser, quelques minutes plus tôt, que le monde cessait d'exister au-delà de la lumière de sa lampe, comme si elle avait été sur le seuil du royaume des morts? Encore ces idées idiotes! Quand elle raconterait ça à Julian, il lui ferait de gros yeux et la comparerait à la vieille folle.
Elle essaya de siffler comme son mari pour se réconforter un peu. Mais ses lèvres étaient aussi sèches que du pain rassis.
Dommage, parce que Julian l'aurait entendu et qu'il serait venu à sa rencontre. Bien sûr, elle aurait pu l'appeler, mais la peur de ne pas obtenir de réponse l'en empêchait. Il valait mieux continuer d'avancer en silence, le retrouver et l'entendre hurler comme un fou parce qu'elle s'angoissait pour rien.
Une douce brise faisait onduler l'eau au bord du lac. C'était ce son qu'elle avait entendu avant même d'arriver sur la berge. Si ses intuitions n'étaient qu'un tissu d'absurdité, Julian serait assis sur sa souche favorite, sa canne à pêche à la main. Sorti en pleine nuit, le moment idéal pour que ça morde, afin d'attraper une carpe pour sa famille, il se lèverait et la couvrirait d'injures parce qu'elle avait effrayé les poissons.
Mais il n'y avait personne sur la souche, et la canne reposait à côté. D'un bras tremblant, Nora leva sa lampe et entra dans le lac. Elle marcha jusqu'à ce que l'ourlet de sa robe soit trempé, ne vit toujours rien, avança encore de l'eau jusqu'aux genoux, et se pétrifia.
Julian flottait sur le ventre, les bras le long du corps et les jambes légèrement écartées. Les vaguelettes venaient mourir contre sa nuque, faisant danser comme des algues ses cheveux mouillés. Son mari dérivait dans l'eau tel un poisson mort. Depuis le début, Nora redoutait de le trouver ainsi. Sans doute à cause de cela, elle ne cria pas et n'eut pas de véritable choc. Immobile dans l'eau, elle continua à regarder le cadavre de Julian à moins de 10 pas d'elle. Là où il était, elle n'aurait plus pied et elle n'avait jamais été une bonne nageuse. Que faire? Julian se chargeait toujours des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Comment allait-elle le tirer jusqu'à la berge? Et ensuite, que serait sa vie? Sans lui, ses enfants et elle crèveraient de faim. Julian travaillait dur, s'acquittait des tâches les plus pénibles et savait une foule de choses dont elle ignorait tout. C'était lui qui subvenait aux besoins de la famille. Nora se sentit engourdie et désorientée comme au moment de son réveil. Ce qu'elle voyait ne pouvait pas être vrai.
Un cauchemar. Julian, mort? Voyons, c'était impossible, pas lui.
Un bruit étrange retentit dans le dos de la jeune femme. Un hurlement comme celui du vent par les nuits de tempête, ou le souffle d'une explosion lointaine. Nora se retourna et vit que des flammes jaillissaient de la cheminée de la ferme. Le toit avait déjà pris feu. Un cri déchira la nuit. Comme les flammes, il montait de la maison, si puissant qu'il semblait vouloir remplir le monde de son écho. Un son pareil ne pouvait pas sortir d'une gorge humaine. Pourtant c'était le cas. Bruce appelait au secours. Hurlant à son tour, Nora lâcha sa lampe dans l'eau et courut vers son foyer. Alors qu'elle en approchait, le son de sa voix et de celle de son fils se mêlèrent, comme s'ils s'unissaient pour briser ensemble l'ignoble silence de la mort. Les enfants étaient dans la maison, et le mal venait d'y entrer. Nora cria de rage et de terreur en pensant à ce qu'elle avait fait. Par le Créateur, elle avait laissé son fils et sa fille seuls face au démon.
Elle faillit se casser la voix en implorant les esprits du bien de l'aider, puis en appelant Bruce et Bethany pour qu'ils sachent qu'elle venait à leur secours. Paniquée, elle avait quitté le sentier et courait maintenant à travers des buissons dont les épines déchiraient ses vêtements et lui lacéraient la peau. À un moment, elle se tordit une cheville, sans doute à cause d'une racine ou d'un trou, faillit tomber mais se rétablit de justesse. Le petit Bruce criait toujours. Mais Bethany, pourquoi n'appelait-elle pas à l'aide? Que lui était-il arrivé? Nora trébucha de nouveau. Cette fois, elle s'étala de tout son long. Quand elle se fut péniblement relevée, elle sentit que du sang coulait de son nez. La douleur manquant la faire retomber, elle tenta de reprendre sa respiration, s'étrangla avec un mélange de sang et de poussière, puis crut qu'elle allait vomir. Elle repartit quand même vers la ferme où le mal s'attaquait à ses enfants. Quand elle ouvrit la porte, des volailles sortirent en battant furieusement des ailes. Bruce s'était adossé au mur près de l'entrée. Fou de terreur, il hurlait comme si le gardien en personne le tirait par les chevilles vers le royaume des morts. Quand il vit sa mère, il voulut se jeter dans ses bras, mais recula, effrayé par son visage dégoulinant de sang. Nora le prit par les épaules. « C'est moi, c'est maman. Je suis tombée, je me suis cassé le nez, n'aie pas peur. » Le garçonnet s'accrocha à elle de toute la force de ses petites mains. « Où est Bethany? Bruce, où est ta sœur ?» D'un bras si tremblant que Nora eut peur qu'il se détache de son épaule, l'enfant désigna la cheminée. Le cri de Nora couvrit le rugissement des flammes. Horrifiée, elle voulut lever les mains pour se voiler les yeux, mais ses bras refusèrent de lui obéir. Bethany était dans la cheminée. Alors que les flammes dévoraient son petit corps, elle avait les bras levés, comme un baigneur par un bel après-midi d'été qui s'offre aux caresses du soleil après être sorti de l'eau. L'odeur de la chair brûlée agressa les narines de Nora. La gorge serrée, elle eut l'impression d'étouffer, à croire que ses poumons refusaient de s'emplir d'un air qui charriait l'horrible puanteur de la mort inéluctable de sa fille. Un goût ignoble dans la bouche, incapable de croire ce qu'elle voyait, la veuve de Julian resta un long moment immobile à regarder Bethany brûler vive. Puis elle avança vers les flammes, un bras tendu pour leur arracher l'enfant. Au fond de sa tête, une petite voix encore vaguement lucide lui souffla que c'était trop tard. Si elle ne sortait pas au plus vite avec Bruce, le feu ferait simplement deux victimes de plus. Les doigts de Bethany étaient déjà carbonisés. Son visage fondait comme celui d'une poupée de cire et ses cheveux lui faisaient comme une couronne de lumière rouge. Elle hurla soudain, si fort que Nora pensa que son âme aussi venait de s'embraser. Les genoux de Bethany cédèrent et elle sombra lentement dans l'étreinte des flammes, qui la dissimulèrent bientôt à la vue de sa mère. Des étincelles jaillirent de la cheminée, suivies par des flamèches, dont certaines vinrent lécher l'ourlet encore humide de la robe de Nora. La jeune femme prit son fils par le bras et sortit de la maison, son foyer, où le mal achevait de consumer sa fille.